Les partis politiques se mettent peu à peu en ordre de marche pour les échéances électorales de 2017. Ce sera une primaire chez les Républicains, au Parti Socialiste et à Europe Écologie Les Verts. Pour d'autres, comme le Parti de Gauche ou le Front National, ce sera le chef naturel qui devrait être désigné pour aller à la présidentielle. Quant aux investitures pour les législatives, le processus aussi est en cours. Et là, on est plus dans le traditionnel. C'est le moment des manœuvres, des alliances et parfois du grand ménage. Le moment aussi où les fidèles sont récompensés et les voix dissidentes sanctionnées. Aucun parti politique n'échappe à ce petit jeu de pouilleux massacreur. Ce n'est pas l'image qu'on préfère de la politique, pourtant c'est bien l'une des fonctions traditionnelles des partis de désigner les candidats, peut-être même la dernière fonction des partis. Et chacun semble aujourd'hui conscient de l'impossibilité de faire comme avant et cherche à donner des gages de renouveau. Alors, parti cherche candidat idéal, c'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en parler. Aymeric Brière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de Seine-et-Marne et secrétaire national du Parti Socialiste. C'est en face de vous, Florence Portelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire Les Républicains de Taverny. Mmh. Et en face également de vous, puisque vous êtes chacun l'un en face de l'autre, Nicolas Bay, bonsoir.
Bonsoir.
Député européen et secrétaire général du Front National aux fédérations et à l'encadrement, c'est ça ?
Oui, notamment.
Notamment, enfin bref, vous participez également à la commission d'investiture et donc vous êtes membre secrétaire général du Front National. Alors je signale à nos auditeurs qui sont toujours un peu sourcilleux et ils ont raison de l'être quand on a des invitations politiques. Trois partis ce soir, ce qu'on appelle les trois principaux partis qui animent la vie politique. On rentre dans une année électorale, on aura largement le temps d'inviter d'autres formations politiques, mais il nous a semblé quand même que voilà, vos trois partis avaient matière à discuter ce soir, sur ce sujet, évidemment, de la fonction même des formations que vous représentez ici. À moins d'un an des présidentielles et des législatives, est-ce que votre parti est prêt aux uns et aux autres ? Et est-ce que c'est important d'avoir un parti en ordre de marche quand on se lance dans de telles années électorales ? Florence Portelli, je commence avec vous.
Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui pour les partis politiques parce qu'il y a les primaires. En tous les cas, chez nous, il y a des primaires. Et quand il y a des primaires, déjà, ça obère un petit peu le projet. Moi, je suis secrétaire nationale de mon parti politique pour la culture. J'ai participé au projet culturel du parti. En même temps, à côté de ça, je suis porte-parole de François Fillon. Donc, je participe aussi au programme de François Fillon, qui ne tiendra pas forcément compte du programme des Républicains, s'il est le candidat désigné à la primaire, comme ce sera le cas des autres écuries. Donc, c'est vrai qu'on a un projet du parti. On a le projet des candidats, qui ne sera pas forcément celui donc du parti. En revanche, c'est vrai que le parti reste important pour organiser ses primaires. Et je pense qu'il reste important pour toutes les autres investitures. Là, on est en train de réunir en ce moment la Commission nationale d'investiture pour les législatives. Et c'est vrai que le label Les Républicains compte sur le terrain et compte pour les populations.
Aymeric Brière, également une primaire chez vous, finalement.
Est-ce que vous êtes habitué maintenant.
Est-ce que vous faites le même constat, malgré tout, de difficulté de mettre en marche le parti quand le chef n'est pas encore, en tout cas celui qui va aller à la présidentielle n'est pas encore désigné. Je signale quand même que j'aimerais bien qu'on parle aussi beaucoup des législatives au cours de cette émission.
Mais puisque vous m'interrogez sur les primaires et en quelque sorte la distorsion entre les primaires et la fonction du parti, moi je n'ai jamais vu et je n'ai jamais mis d'opposition entre les deux. Un parti, c'est un intellectuel collectif dont une des fonctions, il y en a trois essentielles, c'est la formation, la formalisation d'un projet idéologique et la sélection et la préparation des candidats et des candidates aux élections, quelles qu'elles soient. Et donc, il n'y a pas d'opposition à formaliser un projet idéologique. C'est pour rassurer ma collègue des Républicains, puisque nous sommes passés par là. Donc, formaliser un projet idéologique,
bien sûr. Ça a été présenté par les Républicains.
La semaine dernière, j'ai suivi. Hein, vous savez que je ne suis pas monomaniaque. Je suis l'actualité de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. C'est bien normal. Donc, il n'y a pas d'opposition, à mon sens, à formaliser un projet d'un parti et en même temps de le mettre en confrontation avec les différents candidates et candidats aux primaires. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez habituel dans le cadre de la Ve République avec la prééminence de l'élection présidentielle.
Nicolas Bay, pas de primaire au Front National, mais un parti en ordre de marche aujourd'hui ?
Oui, le Front National sort d'une séquence de 3-4 scrutins importants qui ont été des étapes intermédiaires de construction d'un appareil territorial, d'un maillage territorial qui, jusqu'à il y a quelques années, nous faisait défaut. Le Front National sort considérablement renforcé à la fois des municipales, des départementales et des régionales, avec une croissance constante. Et bien sûr, ça fait déjà plusieurs mois que nous préparons cette campagne présidentielle, avec comme particularité par rapport aux Républicains ou au Parti Socialiste d'être totalement unis à l'Assemblée derrière notre candidate à la présidentielle. Je souriais en entendant un peu la présentation idyllique qui nous était faite aussi bien par les Républicains que par le PS de la primaire. En réalité, on voit bien, et tout le monde voit bien, les Français se rendent compte que ces primaires, elles sont destinées à masquer à la fois des divergences de fond et parfois l'absence de projet de fond, de vision pour le pays, et aussi des conflits de personnes qui sont l'essentiel finalement de ce qui constitue ces primaires. On le voit aussi bien
aujourd'hui
à gauche avec Emmanuel Macron qui est au gouvernement et qui en même temps fait un meeting ce soir pour préparer une éventuelle candidature
à la présidentielle. Qui n'est pas un parti socialiste,
Emmanuel Macron. Et du côté des Républicains, il y a 14 candidats à la primaire. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de cacophonie générale et des chocs d'ego, des chocs d'ambition, mais rien pour le pays.
Juste une petite remarque avant de vous redonner la parole, Florence Portelli. Vous êtes unie aujourd'hui au Front National. Encore cette semaine, l'éviction de Marie-Christine Arnautu, qui était membre du bureau exécutif du Front National, vous permet d'être unie et peut-être, justement, comme je le disais,
dans un parti politique.
Oui, la discipline, en effet, ça permet de ne voir qu'une seule tête.
Ouais, mais non, pas seulement. C'est simplement qu'il est important aussi, à un moment donné, quand on mène un travail collectif, d'assurer la cohérence et l'unité. Encore une fois, c'est ce qui fait manifestement défaut au Parti Socialiste comme au Républicain.
Et ben on va donner la
parole. La force du Front National, c'est justement qu'il y a un respect de la discipline. Et Marie-Christine Arnautu n'est plus dans le bureau exécutif pour quelques mois. Ça l'empêche pas d'ailleurs d'être un cadre et une élue du Front National.
Florence Portelli.
Oui, alors là, c'est de la part du Front National, plus rien m'étonne, mais enfin quand même, avoir une présidente qui est l'héritière familiale d'un patriarche, c'est quand même sur le plan démocratique assez particulier. Il y a eu des purges au sein de votre parti, enfin moi je l'ai même vécu dans mon département, vous me direz, c'est pas... Non mais monsieur, vous êtes en train de dire que chez vous c'est idyllique. J'attends de voir ce que fera la petite nièce une fois que l'élection présidentielle sera passée, si par bonheur, la tante est battue.
Oser,
je ne vous ai pas coupé, monsieur. Ça fait partie aussi de la démocratie, allez, de ne pas couper les gens. Si la tante est battue aux élections, je pense que la nièce, après, se chargera de régler ses comptes. Elle règle aussi ses comptes avec monsieur Philippot. Donc, je pense que chez vous, vous n'avez pas de leçons à donner en la matière. Je pense que d'ailleurs, oui, il y a des partis politiques qui se chargent, ils ont encore cette fonction-là, de liquider les adversaires. C'est une des fonctions du Front National. Chez nous, il peut y arriver aussi qu'il y ait des règlements de compte.
C'est gentil de ne pas raconter n'importe quoi quand même. Ne serait-ce que pour la qualité du débat et par respect pour les auditeurs, ne pas dire des bêtises plus grosses que vous, ce serait bien. Pour une raison très simple, c'est que si vous confondez deux choses qui sont totalement différentes, les divergences des sensibilités qui s'expriment, un mouvement politique, bien sûr, un mouvement politique représente 30% des électeurs, assez naturellement, il y a des personnalités, des parcours, des sensibilités, et ça c'est très bien, c'est ce qui fait la richesse, et c'est ce qui fait la différence entre un parti politique et une secte. Mais chez vous, ça n'a rien à voir. Chez vous, c'est des conflits de personnes permanents et aucune vision pour le pays.
Entre M. Philippot et Mme Marion, Maréchal Le Pen, il n'y a pas de conflit.
Il n'y a pas de divergence programmatique.
J'allais vous donner la parole, Émeric.
Je pense néanmoins que dans tout ceci est un peu caricatural. De la même manière que chez vous, il y a sans doute des différences de sensibilité, vous ne les réglez pas de la même manière que les Républicains ou le Parti Socialiste. Il y a aussi des différences de sensibilité chez les Républicains et au Parti Socialiste. Ce qui fait la différence entre vous et ce que viennent de décider les Républicains il y a maintenant un an et demi, ce que nous avons mis en œuvre à l'occasion de 2011, c'est qu'on estime que ce ne la relève pas simplement des membres du parti de trancher les désaccords idéologiques qui s'incarnent dans des personnes, mais de l'ouvrir à l'ensemble de celles et de ceux qui se réclament soit du peuple de droite et du centre pour les Républicains, soit des valeurs de gauche pour ce qui concerne le Parti Socialiste. Quant à dire que ce ne sont juste que des querelles d'égo, je ne sais ce qui se passe dans votre parti, ça vous regarde, mais la grande différence c'est qu'en tous les cas, nous, la dernière fois en 2011, on l'a mis sur la place publique, il y a eu des débats d'organiser, qu'il y a eu des lignes différentes de proposer par différents candidats et que ce sont près de 3 millions de personnes qui ont tranché le débat plutôt que quelques dizaines de milliers, fussent-elles dans un congrès. Je le dis d'autant plus tranquillement que c'est un mode de fonctionnement nouveau que nous avons décidé de mettre en ordre de marche, sans mauvais jeu de mots, par rapport à la date, et que cela a bien fonctionné. Donc c'est un nouveau mode de sélection, et je vous parie que dans quelques années, l'ensemble des partis politiques en France y viendront, y moi, compris le vôtre.
Oui, Nicolas, mais vous n'avez pas le sentiment d'être ringardisé justement avec cette façon nouvelle qui répond à la demande des Français d'être associé à d'autres niveaux de la décision politique. On voit qu'il y a une demande assez générale.
Je crois que le Parti Socialiste et Républicain sont en train de calquer le modèle américain. C'est-à-dire qu'ils rêvent encore à quelque chose qui est en train de disparaître, c'est le bipartisme. C'est la bipolarisation de la vie politique. Les élections aux États-Unis fonctionnent comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une logique de primaire avant l'élection présidentielle. En France, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, ça ne correspond pas à notre tradition républicaine, et ça correspond de surcroît pas du tout à la façon dont est structurée la vie politique, avec finalement aujourd'hui trois forces politiques de poids assez analogues qui représentent chacune un tiers, la gauche, le Parti Socialiste et ses alliés ou satellites.
Enfin, de façon analogue, les Républicains, UDI, pas tout à fait encore dans les instances blocs représentatives.
Trois blocs d'environ 30% des voix, mais vous avez raison de souligner que les modes de scrutin très antidémocratiques font qu'elles ne sont pas toutes représentées de la même façon. Et puis parce qu'on a vu aussi au régional que le Parti Socialiste et l'UMP n'hésitaient pas à s'unir, à faire des combinaisons politiciennes pour empêcher le Front National de gagner.
Oui,
ce qui montre bien d'ailleurs qu'ils sont d'accord sur l'essentiel.
J'aimerais bien qu'on revienne sur le fond du débat.
Encore une fois, ce que je crois, c'est que les élections, c'est le moment de respiration démocratique, c'est le moment où les électeurs s'expriment, et organiser des élections à l'intérieur des partis, c'est normal pour le fonctionnement du parti, mais quand on voit comment se passent ces primaires prétendument ouvertes, où finalement le corps électoral est mal identifié, où les uns et les autres vont essayer soit de restreindre le corps électoral, soit de l'augmenter en fonction des appuis dont ils disposent ou dont ils disposent pas à l'intérieur du parti, finalement on revient à des système très politicien, finalement, bien sûr que si. Or, ce dont ont besoin les Français aujourd'hui, c'est de la clarté, de la cohérence. Mais c'est ce qui fait défaut à vos deux partis, et c'est pour ça que vous vous en remettez à ces primaires. Mais aujourd'hui, on voit bien que quand il y a une cacophonie avec 14 candidats chez les Républicains, je crois qu'il n'y a aucun débat politique de qualité.
Nicolas Bay n'est pas le seul à remarquer qu'il y a beaucoup de candidats.
La France, s'il vous plaît, Nicolas Bay. Différemment, c'est des oppositions de personnes.
S'il vous plaît. Il y a 14 candidats, en effet, au Parti Les Républicains. Républicain Florence Portelli, ou 12
Non.
13
non, non, il n'y en a pas. Il y a ceux qui seront.
Qui sont déclarés, en tout cas.
Oui, parce qu'en fait, chez nous, il y a une sélection qui se fait après par le nombre de parrainages, donc il n'y en aura pas 14 ou 12. Donc ce que dit Nicolas Bay est totalement faux.
Non, mais pour l'instant, donc, il y a 14 ou 12.
Monsieur, j'ai écouté votre litanie, j'ai subi votre litanie, et maintenant, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, donc la pluralité d'expression peut exister. En tous les cas, chez nous, il y aura moins de candidats. Oui, on en aura, je pense, 6.
Et donc, alors, est-ce que vous avez l'impression que le fonctionnement des primaires tel qu'il est établi aujourd'hui se résume à un affrontement des égos et des personnalités, ou est-ce qu'il va y avoir, les idées vont pouvoir s'exprimer lors de cette primaire?
Non, je pense que les idées vont pouvoir s'exprimer, mais quand même une chose qui est très différente par rapport à avant, c'est qu'avant, c'est vrai que les partis politiques en général désignaient le candidat à l'élection présidentielle. Et aussi, il y a déjà un grand changement, c'est qu'avant, il pouvait y avoir une sorte de primaire au moment du premier tour. On avait, nous, à droite, un candidat parfois du centre, de l'UDF à l'époque, du RPR, parfois même de Démocratie libérale, parce qu'il n'y avait pas le danger du Front national. Et on ne risquait pas d'avoir une... pour moi, c'est un danger démocratique.
Mais ça fait vraiment sourire, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez adopté votre organisation.
Je termine mon propos. Vous savez, il y a des gens pour qui c'est un détail, il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Et donc, on n'a pas envie de se retrouver disqualifié, en effet, au second tour. Donc, les primaires sont aussi un antidote à la pluralité de candidatures au premier tour qui ferait qu'on serait disqualifié. Ça, c'est aussi une réalité.
Aymeric Briard, j'ai l'impression qu'au Parti Socialiste, cet outil contre la pluralité des candidatures ne va pas forcément fonctionner cette année.
Je ne sais pas. Je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Donc, on verra en janvier. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moyen pour mettre en marche, justement, le rassemblement autour d'une candidature issue des suffrages fin janvier, le 22 et 29 janvier. Ça a fonctionné en 2011 et c'est pas le sujet de gagner ou pas gagner. La primaire, c'est pas une antidote pour gagner ou l'élément qui va vous faire perdre parce qu'il y aurait trop de divisions. C'est un élément qui permet de mobiliser le corps de votre électorat autour d'une candidature qui s'astreint à rassembler son camp. C'est ce qui avait fonctionné en 2011, ça peut fonctionner en 2017.
Alors voilà, on a parlé de la présidentielle, et comme promis, j'aimerais qu'on avance vers une autre élection, qui est une élection importante, qui est celle des législatives, et véritablement aussi l'élection dans laquelle les partis jouent leur rôle de sélection des candidats à cette élection législative. À quoi ressemble le candidat idéal? C'est un peu la question qu'on aimerait poser ce soir, avec cette première peut-être piste de recherche. Est-ce que le candidat idéal est forcément un professionnel de la politique? On a vu cette année qu'il y avait une contestation des Français vis-à-vis de cette professionnalisation de la politique. Est-ce que les uns et les autres, vous avez le sentiment qu'il faut ouvrir, et est-ce qu'il y a une possibilité de renouvellement? Je vous redonne la parole, Aymeric Brière, parce que vous avez été en charge, je crois, du renouvellement du Parti Socialiste à un moment.
Il n'y a pas de professionnels de la politique. Il y a des personnes qui, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de mandats, sont tellement inclus dans le système de représentation politique, et après tout, ils ont été élus, qu'on peut penser cela. La réalité dans les partis politiques, en tous les cas dans le mien, dans celui que je connais le mieux, c'est qu'on a une très grande diversité de parcours et de représentativité sociologique. Et ça suffit d'aller dans n'importe quelle réunion de section, c'est une réalité qui saute aux yeux. Ce qui est, mais vous pouvez dodeliner de la tête, monsieur Bay.
Mais c'est totalement faux.
Ouais. Vous les connaissez pas, les réunions de section du Parti Socialiste. Par contre, et là où le regard est biaisé, c'est qu'on s'arrête à chaque fois, comme souvent d'ailleurs, aux 4, 5 ou 10 plus hauts représentants de tel ou tel parti, et on se dit qu'il n'y a pas de représentativité ou de diversité. Et ça, c'est un élément qui est en réalité totalement faux. Deuxième élément, qui va tous nous concerner, c'est qu'en 2017 va s'appliquer la loi sur le non-cumul des mandats. En tous les cas, moi je le souhaite. Profondément.
Il va donc être pris en compte là
dans
la...
Ah bah bien sûr, et donc vous allez avoir un certain nombre personnes qui peuvent prétendre être candidates ou candidats des élections législatives et qui devront être prêts à faire un choix entre leur mandat exécutif local, si tant est qu'elles en aient, et leur mandat putatif de parlementaire. Et ça, ce sera un moyen aussi de profondément renouveler et d'inciter au renouveau des candidatures.
Florence Portelli, vous avez levé les yeux, quand Nicolas Bay dodeline la tête, vous levez les yeux sur cette question du non-cumul des mandats. C'est quelque chose qui vous paraît inapplicable, que vous n'allez pas appliquer chez les Républicains?
Ah si, bah, moi en tout cas je me l'applique parce qu'on m'a proposé d'aller aux législatives et comme j'ai remporté les municipales il y a 2 ans, j'ai dit non, donc je suis très à l'aise là-dessus. En revanche... Je peux comprendre qu'on soit pour le non-cumul. Moi, je considère, à contrario, que ce n'est pas forcément un bon texte, que ça part d'un bon principe et que dans l'application, ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire, moi, je vois des candidats qui soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, qui sont des parfaits apparatchiks de partis politiques, qui n'auraient jamais été capables de gagner une élection locale, qui sont des gens qui gravitent dans les partis politiques, qui sont des parasites de la vie politique et qui vont être investis. Au nom du renouvellement, parce qu'il ne cumule pas, il risque pas de cumuler, il se vautre à toutes les élections. Ça va être ça aussi, le cumul. Donc le renouvellement, c'est quoi? Moi, c'est pareil, des fois, on vient me voir en disant, c'est bien symboliquement, t'es jeune, t'es une femme, Mais c'est pas un argument, ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à une sorte de télé-réalité de la vie politique qui est assez navrante. Et j'espère que le renouvellement de la classe politique ne passera pas par cela.
Nicolas Bay.
Moi, ce que je crois, ce qui est important, c'est que les candidats qui sont présentés par un mouvement politique ils soient représentatifs de la diversité française, socioprofessionnelle, générationnelle. Et quand je souriais en entendant le représentant du Parti Socialiste, c'est parce que justement, il y avait une étude très intéressante qui avait été faite par l'IFOP, je crois, au moment des élections départementales. Chaque grand parti a présenté entre 3 et 4 000 candidats titulaires à ces départementales. Et cette étude, elle montrait la très faible diversité socio-professionnelle qui caractérisait aussi bien le Parti Socialiste que les Républicains, avec très peu de candidats issus, par exemple, du monde ouvrier, ce qui n'était pas le cas au Front National, où il y avait beaucoup d'ouvriers parmi nos candidats. Très peu de candidats artisans ou commerçants au Parti Socialiste, quasiment aucun sur les 3500 que vous présentiez. Voilà, je crois que donc, à un moment donné, il faut dire un certain nombre de vérités. Au Front National, on n'a pas cette difficulté, on a une vraie diversité sur le plan socio-professionnel, et sur le plan du renouvellement, on a aussi beaucoup de jeunes. On a 15% de nos élus municipaux et nos élus régionaux qui ont moins de 30 ans. Je crois que
juste pour préciser, Nicolas Bay,
n'atteignent pas les autres formations politiques. Je dis pas que c'est pas un objectif en soi d'avoir beaucoup de jeunes, mais c'est le signe aussi d'une bonne santé, d'une capacité à renouveler, d'une capacité à donner la place aux jeunes. Et symboliquement, vous savez, nos parlementaires aussi, il y en a des jeunes parmi eux, notamment à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc
juste pour préciser le fonctionnement du Front National sur cette question, qui doit en effet faire émerger des candidats, puisque jusqu'à présent, le Front National a très peu de députés et à l'Assemblée nationale. Comment ça se passe? J'ai pu lire qu'il y avait un système de repérage avec un oral. Comment ça se passe concrètement et comment est-ce que vous allez pouvoir identifier justement
Il y a une commission d'investiture qui a commencé ses travaux il y a à peu près 3 mois. Actuellement, nous avons désigné un plus, à peu près les deux tiers de nos candidats, un peu, tout petit peu moins de 400 candidats sur les 577 qui seront présentés. Ces candidats, ils sont pré-investis dans un premier
temps. Et là, vous pouvez nous affirmer que justement, ils sont représentatifs de la société française.
Oui, absolument. Pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que beaucoup d'entre eux sont des élus municipaux. Un certain nombre d'entre eux sont aussi des élus régionaux. Ils ont été candidats à différentes élections. Oui, enfin, ils cumuleront éventuellement un mandat local minoritaire, pas dans l'exécutif, avec un mandat parlementaire s'ils sont élus. Ça, je pense que c'est assez sain et ça permet de garder aussi les pieds sur le terrain. Mais ils sont désignés. Ensuite, ils ont une sorte de feuille de route, en quelque sorte, pour les mois qui viennent, de travail de terrain. Et ensuite, leur investiture sera confirmée fin 2016 ou début 2017. C'est une procédure qui nous permet de choisir circonscription par circonscription les meilleurs candidats. Mais je crois qu'il y a une différence importante entre le Front National de 2016 et celui d'il y a 5 ans, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on s'appuie sur 2000 élus locaux que nous n'avions pas 5 ans avant et qui nous permettent d'avoir aujourd'hui un ancrage territorial solide. Et ces candidats aux législatives, eh bien, ce sont naturellement ces candidats qui sont bien implantés.
Aymeric Brier.
Nous, la procédure est lancée, c'est-à-dire qu'on s'est réunis déjà à plusieurs reprises dans le cadre de la commission électorale qui... La décision, les investitures seront formalisées en décembre lors d'une convention nationale, comme on le fait chaque année, suite à un vote des militants dans chacune des circonscriptions. Parce que nous, il y a un appel à candidature qui sera formalisé début octobre, et ensuite chacune des candidates ou des candidats se présentera dans les militants de la circonscription, et ce seront ces militants qui décideront de l'investiture. Avec cet petit élément, c'est que comme la dernière fois, nous ferons évidemment 50% de candidates, afin de respecter les termes de la loi. Je rappelle justement à cet égard que le groupe socialiste aujourd'hui compte à peu près 40%, un peu moins, 38% de collègues femmes à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des groupes. Et donc nous ferons extrêmement attention à parvenir à augmenter cette proportion, ce qui veut donc dire, pour être très clair, qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de bonnes circonscriptions pour la gauche qui soient réservées pour des camarades femmes, et non pas réservées que des circonscriptions où on sait qu'on va se prendre une gamelle. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des organisations politiques. Mais la spécificité, sans doute peut-être au Parti Socialiste, c'est que ça fait longtemps que nous travaillons sur cette question, puisqu'on a été les premiers à le mettre en place sous l'influence de Lionel Jospin pour les législatives de 97, et que petit à petit, les efforts portent leurs fruits.
Florence Portelli, le candidat idéal est une candidate, c'est pas Nicolas Bay qui me dira le contraire?
Écoutez, moi, la parité, je suis un peu embêtée parce que je pense qu'hélas, on n'a pas trop le choix parce que les mentalités sont particulières. Et en même temps, moi, j'ai jamais considéré que j'avais besoin de la parité. Je considère qu'une femme, elle prend le pouvoir si elle le veut. Elle n'a pas besoin de la condescendance d'un homme ou d'un appareil. En tous les cas, moi, c'est mon cas. Sur les partis politiques, quand même, là, on a une vraie difficulté. C'est que en dehors des personnes qui sont candidates, il y a ce que représentent aujourd'hui les partis. Moi, je vois dans certaines circonscriptions ou pour d'autres types d'élections où des gens votaient pour le candidat Front National en disant en effet, on ne sait même pas qui c'est, mais on vote Front National parce qu'on est en colère. Ou d'autres ne votaient pas les Républicains ou le Parti Socialiste parce qu'il y avait une décrédibilisation des partis de gouvernement. Je pense qu'il y a encore plus actuellement forte au Parti Socialiste, mais qui, nous, ne nous laisse pas non plus totalement. Je pense que c'est la dernière chance qu'ont les partis de gouvernement dans la prochaine élection présidentielle de tenir parole. Parce que sinon, je crains que 2022 n'amène un séisme. Donc il y a les candidats, mais il y a aussi ce que symbolisent les partis politiques. Actuellement, on vit une crise qui est quand même particulièrement inquiétante, quel que soit le type de candidat que vous mettiez.
Il y a, selon une enquête de CVPOF, 12% des Français qui font confiance aux partis politiques, tous partis confondus, Nicolas Bay.
Oui, moi, ce que je vois surtout, c'est que les partis politiques qui sont discrédités, c'est ceux qui se sont partagés les responsabilités dans notre pays depuis plusieurs décennies et qui ont échoué dans tous les domaines. La défiance à l'égard de vos partis politiques, soit le Parti Socialiste ou les Républicains, c'est une réalité, mais il n'y a pas du tout cette défiance à l'égard du Front National. Est-ce que vous interprétez...
Excusez-moi, Nicolas Bay, les chiffres ne vont pas dans votre sens.
Avec beaucoup de mépris, en disant, voilà, les électeurs du Front National, ils ne savent même pas pour qui ils votent, etc.
Non, c'est parce que j'ai dit...
C'est exactement par ce genre de comportement que vous continuez continuerai d'être en rupture totale avec le peuple français. Moi, je crois que aujourd'hui, je crois que nos compatriotes, ils voient très bien que, bien sûr, que les hommes et les femmes comptent, leur parcours, leurs compétences, c'est très important. Mais ils voient surtout que il y a des projets politiques qui doivent être derrière, et ce qui crée la déception. Et le rejet même à l'égard du Parti Socialiste et dans une certaine mesure aussi à l'égard des Républicains, eh bien c'est justement que leur bilan à la tête de l'État ont été désastreux.
Voilà, Excusez-moi, Nicolas Bémé.
Essayer de vous convaincre que les élus locaux des Républicains, par exemple, seraient bons quand leurs dirigeants nationaux sont mauvais, mais ça, c'est votre interprétation un petit peu nombriliste, mais ça correspond absolument pas au ressenti des Français. Beaucoup de nos compatriotes voient très bien que...
Il y a une mode chez les hommes politiques, Nicolas Bémé, c'est de s'exprimer au nom de tous les Français et de leurs ressentis. Il y a aussi des sondages, juste une petite chose, seuls 30% des Français estiment que le Front National a la capacité gouverner la France. Voilà, ça c'est un sondage publié par les Échos en avril dernier. Alors les chiffres des Républicains et du Parti Socialiste sont pas bien meilleurs, mais enfin voilà, c'est-à-dire que la défiance elle est généralisée envers les partis politiques, et le Front National n'échappe pas à ça. Mais j'aimerais quand même, puisque vous avez répondu longuement sur cette question, donner la parole à Aymeric Briey.
Oui, moi je trouve que je suis à chaque fois admiratif des personnes qui préjugent du vote des Français et de leur attitude. On verra bien dans 9 mois ce qu'il en sera. Et j'espère pour eux qu'ils ne vous feront pas confiance, justement pour des raisons politiques, de fond. D'idéologie.
Mais 90% des Français, 85% des Français veulent plus.
Monsieur Nicolas Bay, on n'est pas dans une séance. On n'est pas dans une séance de
pouce. S'il vous plaît,
on n'est pas dans une séance de
pouce pour les Français.
Il faut s'écouter, sinon vos auditeurs ne comprennent rien. Donc moi, je suis assez admiratif de cette capacité. Ce qui est vrai dans ce que dit Madame Portelli, c'est que il y a une défiance généralisée à l'égard de l'ensemble des corps intermédiaires, pas que des partis, et donc de la capacité des uns et des autres, des journalistes comme des organisations syndicales ou patronales et des partis politiques à représenter ce qu'ils attendent. C'est ça le sujet. Et donc c'est là où on a une responsabilité collective de faire en sorte que de nouveau, au-delà de nos différences qui sont légitimes, dont le débat démocratique a besoin, que nos concitoyens puissent de nouveau croire en notre capacité à les représenter. À les représenter, ça veut dire parfois ne pas être d'accord avec eux. Et d'assumer le fait de ne pas être d'accord. Ce n'est pas un drame de ne pas être d'accord avec eux. Moi, je reçois nombre de mes concitoyens dans mes permanences parlementaires, et parfois on a des discussions rudes, et alors c'est pas grave, c'est ça la noblesse de la politique, et c'est ne pas toujours leur dire amen oui à ce qu'ils disent, mais d'affirmer des lignes politiques et de les assumer devant les électeurs. Et quant au Parti Socialiste, vous inquiétez pas, il a connu des hauts et des bas comme toutes les organisations politiques, et vous inquiétez pas, je suis persuadé pour ma part que dans quelques mois les hauts seront de nouveau là.
Nicolas, je vais tenter de ramener le débat vers des questions de fond.
De ne pas être d'accord avec tous les électeurs, c'en est une autre, d'exercer le pouvoir de façon sectaire et dogmatique, avec aujourd'hui un gouvernement qui n'a plus de majorité parlementaire.
Mais si, j'aimerais bien qu'on ait une discussion un peu sur le fond, et pas en s'envoyant, comme justement les Français ne veulent plus entendre ce type d'argument. Avec le 49-3, on a la discussion politique a lieu à l'Assemblée nationale, elle a lieu dans d'autres lieux. Ici, à cette table, j'aimerais bien qu'on parle un peu du fond et du rôle des partis politiques aujourd'hui. Et notamment, il y a quelque chose que vous avez dit et qui vous oppose, justement, idéologiquement et sur le fond, c'est le rôle du représentant et le rôle de la représentation. Est-ce que la représentation, c'est porter la voix telle qu'elle a été exprimée, ou qu'on pense qu'elle a été exprimée par ses électeurs, ou est-ce que malgré tout, les députés n'ont pas un mandat impératif, et la représentation, c'est aussi de décider ce qu'on pense être l'intérêt général. Là-dessus, Florence Portelli.
Non, je pense que déjà, il y a un problème. Moi, j'étais très intéressée par ce qu'ont fait les frondeurs. Les pauvres frondeurs que j'ai pas trouvé très frondeurs, justement, parce qu'ils appliquaient en fait le programme du candidat Hollande. Et le candidat Hollande, comme d'autres, je me rappelle de Chirac en 95 qui fait campagne sur la fracture sociale, bon, et puis qui finalement part dans une autre direction une fois élu. Je pense que ça, c'est la première des erreurs à éviter. C'est quel que soit le parti de gouvernement au pouvoir en
2017. Donc un élu doit appliquer le programme, il ne peut en sortir.
Non, mais en tous les cas, je dirais quand même ne pas dire n'importe quoi pendant la campagne pour se déjuger après, parce que finalement, quand on arrive aux réalités, face à la réalité, on est obligé de prendre des mesures qui sont différentes. C'est pour ça que je soutiens un candidat qui a un programme assez dur. Je pense qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Et la défiance, c'est déjà en grande partie cela. C'est ce qu'on raconte au moment des présidentielles et qu'on est incapable d'appliquer après. Donc nos braves camarades frondeurs, à la limite, je trouve qu'ils ont une certaine cohérence avec eux-mêmes, même si je partage pas leurs idées. Tout à l'heure, quand même, pour répondre à M. Bay, si je peux me permettre...
Mais vous pouvez vous permettre, je pense que je n'arriverai pas à tenir cette conversation sur le fond du sujet.
Mais c'est quand même du fond. C'est les électeurs du Front National, moi, je ne les juge pas. Quand je disais qu'ils étaient prêts à voter pour... j'ai pas dit qu'ils étaient prêts à voter pour... Votent pour un parti. Et il vote aussi pour une colère.
Pour
une colère. Et il est arrivé dans certains endroits de France, moi je l'ai connu sur d'autres élections, vous savez, aux élections municipales, le candidat s'est effondré et a perdu la moitié de ses voix au second tour.
Ça, c'est l'effet du parce véhicule, que... c'est... ça n'a rien à voir.
Bon, en tous les cas, c'est arrivé dans pas mal d'endroits parce que des gens exprimaient une colère au premier tour et se rangeaient derrière le candidat qui n'était plus ce candidat de la raison. Ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, mais arrêtez de me couper. Monsieur, vous n'êtes pas un démocrate.
Mais arrêtez de me couper.
Désolé.
Vous croyez que le vote...
Aymeric Greillat aimerait répondre, s'il vous plaît, Nicolas.
Pour
Nicolas
en revenir à la question que vous aviez posée, parce que quand même, on n'est pas sur le cours d'école, quoi.
Sur le rôle du
parlementaire ou de la représentation politique. Je rappelle juste une réalité constitutionnelle, il n'y a pas de mandat impératif dans la Constitution française. Donc une fois qu'un parlementaire a été élu, quel qu'il soit, il est libre de ses votes. Le moment où il doit... il rend des comptes au peuple. Donc quand il se représente lui ou elle ou la personne qui représente son organisation politique. Donc c'est à ce moment-là qu'il rend des comptes ou qu'elle rend des comptes. Donc ça c'est quand même une réalité qu'il faut quand même assumer. D'autant plus que lorsque vous êtes élu sur un programme pour représenter des idées, vous ne pouvez pas imaginer ou savoir tout ce qui va se dérouler pendant la durée de votre mandat. Donc vous pouvez être amené à prendre des décisions qui n'étaient pas du tout programmés et sur lesquels vous ne vous êtes pas fait élire. Par contre, le principe démocratique, le principe de la réalité démocratique, c'est qu'après, vous en rendez compte devant vos électeurs au moment des élections. Ça, c'est le principe de responsabilité dans une démocratie.
Il est 18h48 sur France Culture, je m'en compte. J'ai oublié de donner l'heure et de rappeler que vous écoutez Le Grain à Moudre d'été. Trois invités ce soir pour se demander quel pourrait être un candidat idéal et parler du fond, on l'espère, de la question justement de ce qu'est la représentation aujourd'hui, de ce à quoi servent les partis politiques. Aymeric Breillet, qu'on vient d'entendre, du Parti Socialiste, Florence Portelli des Républicains et Nicolas Bay pour le Front National. Vous êtes d'accord à ce que vient de dire Aymeric Breillet ou c'est quelque chose qui vous oppose fondamentalement, Nicolas Bay? À quoi vont servir et comment vont se comporter les représentants du Front National s'il y en a à l'Assemblée Nationale aux prochaines élections?
Ils appliqueront le programme sur lequel ils ont été élus s'ils sont majoritaires, si Marine Le Pen a une majorité à l'Assemblée nationale et qu'elle gagne l'législative après avoir gagné la présidentielle, mais et sinon, s'ils sont dans l'opposition, eh bien, ils défendront les idées sur lesquelles ils se sont fait élire. Moi, je crois qu'il y a bien sûr, dans l'exercice du pouvoir, un certain nombre d'éléments inattendus, d'aléas, tout n'est pas dans le programme sur lequel on a été élu, ce à quoi on va être confronté pendant la durée d'un mandat. Ça, c'est une chose. Mais en revanche, il y a quand même les engagements qu'on prend pendant une campagne électorale et sur lesquels, et qu'on doit tenir, et sur lesquels on est jugé. Et ce qui fait aujourd'hui la défiance très grande des Français à l'égard aussi bien des Républicains que du Parti Socialiste, c'est qu'ils ont le sentiment qu'après leur élection, ils oublient totalement leur promesse. Je prendrai un exemple concret. Nicolas Sarkozy s'est fait élire en 2007, avec le gouvernement Fillon, ils ont fait ensuite exactement le contraire de ce à quoi ils s'étaient engagés. Par exemple, en matière d'immigration, ils avaient promis une baisse de l'immigration. Elle a augmenté, 200 000 entrées légales par an pendant toute la durée du quinquennat. Je prendrai un deuxième exemple avec le Parti Socialiste. François Hollande, pendant sa campagne présidentielle, nous dit « Mon adversaire, c'est la finance. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a nommé un banquier d'affaires à Bercy. » Eh bien, on est de façon caricaturale dans des décisions politiques qui vont exactement à l'inverse de ce qui était promis, annoncé durant la campagne. Et le fait comme ça de piétiner ses engagements, de traiter les électeurs comme des paillassons, eh bien, c'est ce qui vous disqualifie aujourd'hui terriblement. Florence et Portelli. C'est pas seulement une question de personnel politique, c'est d'abord une question d'idées qu'on défend et sur lesquelles on doit prendre des engagements et ensuite s'y tenir.
Florence Portelli.
Oui, on verra si Front National tient le même discours sur la sortie de l'euro et s'il ne change pas. Mais bon, je pense qu'il y a un autre... Non, parce que là,
J'aimerais mieux pas s'il nous reste 10 minutes.
S'il vous plaît, si vous pouvez tolérer que je puisse prendre la parole.
Florence Portelli.
Ce qui va être compliqué avec la loi aussi sur le non-cumul, c'est que si vous voulez, quand il y avait des gens qui... par exemple, quand on m'a proposé la circonscription, on m'a dit... entre guillemets, tu es la candidate naturelle parce que tu t'es ancrée sur le territoire, etc. Bon. Maintenant, avec cette loi, vous n'avez plus forcément de candidats naturels. On va aller choisir des nouveaux candidats. Et ce qui va se passer, c'est que c'est des gens qui vont devoir tout aux partis politiques. Et déjà, que dans les groupes parlementaires, je suis désolée, c'est quand même une réalité, il y a une discipline de parti, surtout à l'Assemblée nationale, d'ailleurs plus qu'au Sénat, paradoxalement, mais qui est très difficile à remettre en cause, avec des députés élus tous les 5 ans, qui sont tributaires de l'investiture, parce que sans l'investiture, c'est quasiment impossible de gagner sur sa circonscription. Je ne suis pas sûre que les députés... osent s'émanciper si jamais les gens avec lesquels ils ont été élus s'affranchissent du programme électoral. Donc c'est vrai qu'il y a une discipline de parti qui est un petit peu compliquée à l'Assemblée nationale. Et je pense que d'ailleurs le Front national n'y échapperait absolument pas. Et je pense aussi que par contre il y a un débat qui serait intéressant aussi à avoir. C'est parce que tout à l'heure je vous entendais dire les parlementaires ne sont pas forcément représentatifs à cause du mode de scrutin. Moi, je ne crois pas que le scrutin majoritaire soit un scrutin antidémocratique. Rien ne vous empêchait de gagner le second tour.
Oui, mais il l'est de fait parce que quand vous avez une Assemblée nationale qui finalement est représentative de 40 ou 45% du corps électoral, à peine, puisque
oui,
c'est 60 ou 70% des exprimés, eh bien ça pose un vrai problème. Oui. Lorsque vous avez des formations politiques qui présentent...
Pour être concret, vous militez pour une proportionnelle intégrale?
Oui, je crois que la proportionnelle intégrale, finalement, ça permet à la fois d'avoir une représentation nationale qui soit conforme à la réalité du pays, et ça permet
également...
Mais ça
obligerait le Front National à former des alliances.
Oui, ça pousse effectivement à des consensus.
On a connu ça,
oui. Ça pousse à des consensus et ça évite ça justement l'exercice sectaire et dogmatique du pouvoir tel qu'on l'observe aujourd'hui. Donc je crois que la proportionnelle intégrale, elle a quand même cette vertu. Il y a également des formules alternatives que sont par exemple la proportionnelle avec une prime majoritaire. C'est sans doute un peu moins démocratique, mais ça permet de dégager une majorité absolue en siège.
Vous avez dit intégrale, voilà. Vous avez préféré l'intégrale. Très bien, retour à la 4ème République.
Nous défendons la proportionnelle intégrale.
mais
vous savez d'ailleurs que le scrutin majoritaire, théoriquement, il n'empêche pas d'avoir une instabilité parlementaire. Oui, c'est pas parce que vous avez un scrutin majoritaire.
C'est un peu difficile quand même. Hein.
Pas du tout. C'est pas parce que vous avez un scrutin majoritaire par circonscription que vous avez mécaniquement une majorité absolue en siège. Voilà. Je pense que vous n'avez pas beaucoup réfléchi au sujet.
Je renvoie nos auditeurs
alors,
vers
deux remarques. Non pas pour mettre d'accord, parce que je ne veux surtout pas les mettre d'accord, mais deux remarques par rapport à ce qui a été dit. La première remarque, je ne suis pas d'accord avec Mme Portelli. Je pense que ce qui est extrêmement important, bien au contraire, dans un Parlement et dans une Assemblée nationale, c'est de faire en sorte qu'il y ait une discipline au sein des groupes parlementaires. Moi, je suis en total désaccord avec cette vision. Je suis parlementaire et je n'ai pas été élu parce que je m'appelle Émeric Brayer dans ma circonscription. J'ai été élu parce que je représentais des idées, un parti politique. Et donc, je me dois de faire en sorte que dans mon groupe parlementaire puissent émerger des compromis et en tous les cas, quand ce n'est pas possible, que la règle de la majorité y fasse droit. Et c'est pour ça qu'en dépit de toute l'amitié que j'ai pour certains de mes camarades dits frondeurs, je trouve qu'ils ne jouent pas le jeu parce que il y a un moment donné où effectivement, quand vous avez 260 des députés qui sont sur une ligne et 27 ou 28 qui sont sur une autre,
54,
c'est pas au 20... Non, 54, c'est avec le Parti communiste, le Front de Gauche et les anciens d'Europe Écologie Les Verts. Donc je sais combien de parlementaires socialistes avaient envisagé de signer une motion de censure. sûr. Donc ça, c'est le fond. Et puis ensuite, dans la démocratie, pour en revenir au fond du débat, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il y a d'une part la force de gouverner et d'autre part la force de juger. La force de gouverner, c'est de faire en sorte que le régime soit au moins à peu près stable pour qu'il puisse mettre en œuvre les politiques sur lesquelles il a été élu. Et la force de juger, c'est de faire en sorte qu'ensuite, à la fin de ce mandat, les femmes et les hommes qui ont représenté le peuple lors des élections législatives précédentes puissent se représenter pour assumer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi ou ce qu'ils n'ont pas réussi. Et donc c'est les deux qu'il faut tenir, la force de gouverner d'une part et la force de juger qui revient au peuple d'autre part.
Florence Portelli.
Oui, non, écoutez, jusque-là j'avais été quand même pleine de compassion, mais vu l'état quand même du Parti Socialiste et du gouvernement...
Vous pouvez être d'accord avec moi.
Ah ben ça, c'est tout à fait. Ça, non, mais j'avais de la compassion parce qu'on ne tire pas sur les ambulances.
Votre égard.
Vu, je sais bien, mais vu l'état du Parti Socialiste et du gouvernement quand même qui est dans un état lamentable, heureusement qu'il y a justement, M. Bey, les institutions de la Ve République. Parce qu'au niveau de popularité où est le président de la République, au niveau de son niveau de décrédibilisation qui a atteint même le Premier ministre, s'il n'y avait pas les institutions de la Ve République, le pays serait en crise totale, on serait en crise institutionnelle.
Elles ont été largement
dévoyées, on serait en crise institutionnelle. Donc au contraire, aujourd'hui, heureusement qu'on a les institutions de la Ve République, mais justement pour tenir le cap.
Encore que ces institutions de la Ve République, elles ont été largement dévoyées, notamment avec le passage au quinquennat. Et ça, on le doit d'ailleurs à votre famille politique.
Qui a été voté par référendum, Nicolas Béchard. Je croyais que le référendum était l'un des éléments de la politique du Front National pour donner la voix au peuple.
Oui, bien sûr, nous, nous sommes favorables au référendum. Après, si le résultat du référendum ne nous convient pas, eh bien nous la respectons quand même. Hein, voilà. Mais encore une fois, moi, ce que je crois aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que les grandes orientations politiques ne sont plus prises par référendum. On l'a vu de façon spectaculaire en 2005. Les Français rejettent le traité constitutionnel, le même texte. On change juste le titre.
D'autres pays européens l'ont adopté. Hein, oui, donc, c'est une situation un peu plus complexe.
Non, non, c'est pas
un référendum national.
Si, c'est un référendum national.
Bien sûr, mais qui ne concerne pas une question uniquement nationale.
C'est un référendum national rejeté par les Français. Il est adopté par voie parlementaire à l'initiative d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, ce qui est la démonstration
encore une fois, il a été adopté par
la représentation nationale. Je trouve pas ça bien. Je trouve que ça a été une grosse fracture entre les Français.
Oui, exactement. Mais je vous signale quand même que c'est le gouvernement de Fillon que vous soutenez qui l'a mis en œuvre. Ok, ça vous aura échappé.
Non, mais ça m'échappe pas. Vous savez, moi, je suis pas béni. Oui, je suis pas au Front National.
Bon, pour terminer, si vous le voulez bien, tous les trois, il est 18h57. Il ne reste même pas deux minutes. Mais malgré tout, poser une question sur les nouvelles formes de mobilisation, Internet, les primaires citoyennes. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les choses vont se faire en dehors des partis? Je vous demande à chacun d'être court pour répondre à cette question longue. Mais voilà, c'est le jeu de la radio. Aymeric Breillet.
Non, ça ne se fera pas et ça ne doit pas se faire en dehors des partis politiques. Par contre, c'est la responsabilité des partis politiques de s'ouvrir et de faire en sorte que ces nouveaux modes d'expression trouvent leur voie d'aboutissement au sein des partis. Les partis sont jamais aussi faibles que lorsqu'ils se renferment sur eux-mêmes et jamais aussi forts que lorsqu'ils s'ouvrent.
Nicolas Bay.
Moi, je crois que la logique même de la présidentielle, c'est justement de dépasser le cadre des partis. Les candidats à la présidentielle, ils sont soutenus éventuellement par les partis politiques, mais ils doivent évidemment s'adresser à tous les Français et rassembler au-delà du socle strict de leur parti politique. Je crois que c'est, encore une fois, c'est important que les grands débats démocratiques, eh bien, ce soit les questions de fond qui soient posées. Vous étiez l'un et l'autre les avocats des primaires.
Il y a vraiment très peu de temps, Nicolas Bay.
La grande faiblesse de ces dispositifs-là, c'est que c'est des dispositifs éminemment complexe qui finalement enferme le débat politique autour de sujets de forme, de personnes, d'organisation, alors que ce qui est essentiel et ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est le débat de fond sur où va le pays.
Florence Portelli.
Oui, moi je pense que les réseaux sociaux c'est une force parce que ça permet à un maximum de citoyens de s'exprimer, les partis politiques y contribuent, les candidats aussi aux primaires. Je pense néanmoins que faire d'un tweet le fond d'une pensée politique est particulièrement dangereux, qu'aujourd'hui on arrive à une ère de la toute communication qui est particulièrement inquiétante.
Merci à tous les trois, Aymeric Breillet, Florence Portelli, Nicolas Bay, d'avoir participé à cette émission et d'avoir malgré tout parlé aussi du fond. Une émission qui a été préparée avec Alexandra Gège, Laurence Genepin, Catherine Donnet et Tanguy Omri. À la réalisation ce soir, Véronique Villa, et à la technique, Anthony Thomason. On parlait Internet, Twitter. Vous pouvez évidemment nous suivre sur Twitter, suivre Le Grain à Moudre d'été et réécouter l'émission sur franceculture.fr.